France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 7 janvier. Bonjour Agnès Soubiran.
Ah bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, quand la démocratie vacille. Scène de chaos hier à Washington, le Capitole envahi par des militants pro-Trump, des élus masques à gaz sur le visage, obligés de battre en retraite. Le calme est revenu ce matin, mais le choc est terrible. Reportage à Washington, analyse, réaction dans le monde dès le début du journal. On en parlera à 7h15 avec Gérard Araud, l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, et avec vos invités, Léa, à 7h50.
Oui, on sera avec Jérôme Cartillier, le correspondant de l'AFP à la Maison-Blanche. Pendant toute la présidence Trump, il a été au plus proche de la présidence Trump pendant ces 4 années inouïes. Et à Paris, on sera avec le spécialiste des États-Unis, Corentin Célin, qui sera là.
À tout à l'heure, Léa. Les autres titres, Agnès.
La crise du Covid. Entre deux patients, les médecins se font vacciner à tour de bras. Reportage à la PHP. Le télétravail un peu allégé à partir d'aujourd'hui. Et puis un film époustouflant sur l'indicible souffrance de la perte d'un bébé à la naissance.
Et à 8h20, plusieurs invités pour le grand entretien de la matinale. Consacré aujourd'hui aux universités et établissements d'enseignement supérieur. Comment les étudiants vivent-ils l'épidémie de Covid, bloqués chez eux, confinés derrière leur écran d'ordinateur? Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
L'histoire se souviendra des violences aujourd'hui au Capitole comme d'un moment de déshonneur et de honte. Ce sont les mots de l'ex-président américain Barack Obama après cette journée de chaos à Washington. Hallucinante scène d'envahissement du Congrès par des militants chauffés à blanc par un Donald Trump qui refuse toujours de reconnaître sa défaite. Les élus qui devaient officialiser la victoire de Joe Biden ont été contraints de quitter les lieux saturés de gaz lacrymogène. Retour sur cette journée de chaos au Capitole avec le reportage du correspondant permanent de France Inter à Washington, Grégory Phillips.
La police du Capitole a beau lancer des grenades lacrymogènes, la foule pousse trop fort et au bout de quelques minutes, elle parvient à envahir la terrasse qui surplombe le mall, l'esplanade au cœur de Washington. Puis une première porte cède, les équipes de sécurité sont débordées et les partisans de Trump déboulent dans la salle des statues, sous la coupole. Ils atteignent le Sénat, puis la Chambre des représentants qui vient d'être évacuée et même le bureau de Nancy Pelosi, la speaker de la Chambre, où certains se font prendre en photo.
On reprend notre pays. Ce pays est à nous, pas à eux. Eux, ce sont des criminels. Et ce Joe Biden, il est foutu. Lui aussi, c'est un criminel. Regardez ces histoires avec l'Ukraine.
Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Moi, je vais profiter du spectacle.
En fin d'après-midi, dans un nuage persistant de gaz lacrymogène, les manifestants ressortent du Capitole. Ron est extatique.
C'est très beau. Il fallait faire ça. C'est le seul moyen de nous faire entendre. On est en colère, on est énervé. Nous sommes prêts à la guerre s'il le faut. Et non, Joe Biden n'est pas notre président. C'est Trump.
À la nuit tombée, les policiers du Capitole annoncent avoir repris le contrôle du bâtiment et la capitale fédérale est placée sous couvre-feu pour une douzaine d'heures. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Des violences qui ont fait au moins une victime, une femme, ancienne militaire, ardente militante pro-Trump, touchée par balle à l'intérieur du Capitole et qui a succombé à ses blessures. Aucune précision pour l'instant sur l'auteur du coup de feu. La garde nationale a finalement été appelée en renfort et le bâtiment a pu être évacué. Élus du Sénat et de la Chambre des représentants ont donc pu reprendre ensuite le processus de certification de la victoire de Joe Biden. Le Sénat vient ainsi de rejeter les objections d'élus républicains concernant les résultats dans l'état de l'Arizona. Bonjour Franck Mathevon.
Bonjour Agnès.
Après donc avoir vacillé, la démocratie américaine semble ce matin avoir repris son cours, mais le choc est rude et il a encore fait bouger les lignes, Franck.
Oui, les réactions politiques aux États-Unis sont à la mesure du séisme qui a secoué Washington hier. L'ancien président George W. Bush dénonce des scènes dignes d'une république bananière. Beaucoup d'élus des deux camps expriment ainsi leur indignation et les lignes ont en effet un peu bougé au Congrès, toujours réunis en ce moment, vous le disiez, pour certifier les votes de la présidentielle. Des républicains qui avaient prévu de suivre Trump et de contester les résultats ont changé d'avis. C'est le cas de la sénatrice Kelly Loeffler, battue lors d'un second tour avant-hier en Géorgie.
Je ne peux plus maintenant en conscience m'opposer à la certification des votes. La violence, l'anarchie et le siège du Congrès sont abjects. C'est une attaque contre les institutions que je souhaitais protéger, contre le caractère sacré du processus démocratique.
Et d'autres élus républicains tiennent à présent ce discours, même si plusieurs dizaines, il faut le dire, continuent à contester le vote de novembre.
Alors cela présage, Franck, d'une fin de mandat tout à fait singulière pour un Donald Trump plus isolé que jamais.
Oui, Donald Trump est accusé d'avoir provoqué le chaos en rassemblant ses partisans les plus radicaux à quelques pas du Capitole. Certains de ses derniers soutiens n'ont plus peur désormais de lui tourner le dos. Des élus républicains, on vient de le dire, mais aussi des conseillers de la Maison-Blanche. Certains ont démissionné hier. Des démocrates appellent à le destituer. Les comptes Twitter, Facebook et Instagram de Donald Trump ont été suspendus. Et des ministres auraient même discuté d'un possible recours au 25e amendement qui permet de déclarer un président inapte à exercer ses fonctions.
Merci Franck Mathevon pour toutes ces précisions. La cérémonie d'investiture est toujours fixée au 20 janvier. Et pour Joe Biden, la perspective d'une gouvernance pleine et entière grâce au soutien du Sénat, grâce aux deux sièges remportés hier en Géorgie. À la victoire du pasteur noir Raphaël Warnock s'est ajoutée celle de John Ossoff, qui devient à 33 ans le plus jeune sénateur démocrate depuis Joe Biden en 1973. Les événements au Capitole ont provoqué une pluie de réactions dans le monde. Boris Johnson dénonce des scènes honteuses. Le vice-chancelier allemand parle d'une attaque insupportable contre la démocratie. Le Canada voisin s'inquiète. Emmanuel Macron a également posté un message sur Twitter à l'ami américain.
Quand dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause par les armes les résultats légitimes d'une élection, c'est une idée universelle, celle d'un homme, une voix, qui est battue en brèche. C'est pourquoi ce soir, je veux dire notre confiance dans la force de la démocratie américaine. Je veux dire notre amitié à l'égard du peuple et de la démocratie américaine. Je veux dire notre lutte commune pour que nos démocraties sortent plus fortes.
Emmanuel Macron, et nous reviendrons bien sûr sur ces violences au Capitole, à Washington et leurs conséquences tout au long de ce 7-9 et dès 7h15 avec Gérard Haro, ancien ambassadeur de France aux États-Unis.
C'est dans 8 minutes, il est 7h07, Agnès. En France, la campagne de vaccination accélère.
5000 personnes vaccinées mardi, 12500 hier, et des personnalités comme Michel Simès ou Axel Kahn qui reçoivent la première dose sous l'œil des caméras. 200 artistes qui se mobilisent en se disant prêts à être vaccinés, Fabrice Lucchini, Gérard Jugnot ou encore Daniel Auteuil. Et au sein de la PHP, des candidats aussi nombreux, Véronique Julia, mais les structures sont débordées.
Aux hôpitaux de Paris, les plus de 50 ans, ça fait 25 000 personnes à vacciner. En rodage depuis le week-end dernier, l'opération s'organise. Hier, une quinzaine de lieux de vaccination étaient ouverts pour les personnels concernés et une plateforme de prise de rendez-vous en ligne a été mise en place pour qu'ils s'inscrivent week-end compris. Des vaccins, on n'en manque pas. La PHP en a déjà reçu plus de 30 000 doses depuis le 26 décembre. Ce qui est plus difficile à trouver, en revanche, ce sont les forces vives. Sur chaque centre, il faut au minimum un infirmier pour piquer et un médecin pour la consultation pré-vaccinale et la surveillance post-injection pendant 15 minutes. Sans compter les tâches administratives pour rentrer dans les logiciels, les numéros de lot et le nom des vaccinés. À l'hôpital de Garches, c'est l'infectiologue Benjamin Davido qui s'y colle cette semaine, en plus de tout le reste.
Ça s'est fait à brûle-pourpoint. Le lundi matin, en réunion de crise, on m'a dit qui vaccine et donc j'ai répondu, c'est moi. Et ce qui est extrêmement difficile, c'est que les hospitalisations ne diminuent pas. Et donc, lorsque je vais me détacher pour aller faire la vaccination des soignants pendant ce temps-là, je ne peux pas m'occuper des malades hospitalisés qui ont le Covid. Donc c'est vrai que ça devient extrêmement éprouvant.
On aurait sans doute pu mieux anticiper, ajoute le médecin, pour qui la solution ces prochains jours sera de répartir la tâche et de faire tourner chacun son tour sur le poste de vaccination. Des pédiatres, des réanimateurs, des radiologues. Pas de difficulté en revanche pour trouver les candidats au vaccin. Ils viennent en nombre, les médecins surtout. Les moins de 50 ans seraient même impatients que ce soit leur tour.
Et alors que Jean Castex doit prendre la parole à 18h ce soir, les chiffres publiés hier ne sont pas bons. Plus de 25 000 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures, 291 décès enregistrés à l'hôpital et un taux de positivité qui reste à 5,4%. On sait déjà que les remontées mécaniques dans les stations de ski ne rouvriront pas aujourd'hui, au grand dam des professionnels de la montagne qui s'inquiètent d'une possible saison blanche. Une règle tout de même est assouplie ce matin, celle du télétravail. Face à l'isolement dont souffrent de nombreux salariés, Le ministère du Travail préconise un nouveau protocole sanitaire avec le retour à minima d'une journée par semaine sur site. Mais cela nécessite d'abord de l'employeur et une négociation avec les syndicats. Certains télétravailleurs craignent donc de ne pas pouvoir revenir de sitôt. Rebecca Alexis Langard.
En télétravail 5 jours sur 5 depuis le premier confinement du mois de mars, Hicham, cadre dans une boîte de conseil en informatique, n'attend qu'une chose, revenir au bureau. Mais malgré ce nouveau protocole sanitaire, les retours ne seront pas autorisés avant l'été.
Personne n'est autorisé aujourd'hui à revenir au bureau, même si je demande à mon employeur, il n'y a pas cette possibilité. On devient un petit peu une machine à travailler du matin au soir. On perd le plaisir de travailler tout court parce que ça devient très mécanique, quoi.
Même constat chez Framatome, une filiale d'EDF où 80% des 10 000 salariés veulent revenir au bureau au moins 2 jours par semaine. Mais tout le monde ne pourra pas revenir. Tout reste à négocier, explique Alexandre Crétiot, délégué syndical CFDT.
On a déjà fait une demande officieuse à la direction pour trouver un compromis. Aujourd'hui, il y a une grosse lassitude. La majorité des salariés souhaitent revenir pour retrouver un peu de lien social. Donc il va falloir tourner les effectifs pour essayer de contenter le maximum de salariés.
À défaut de terrain d'entente ou de possibilités techniques de rouvrir certains sites, les salariés qui souhaitent revenir devront rester en télétravail.
Deux matchs nuls pour les nouveaux entraîneurs de Ligue 1, 0-0 entre le FC Nantes de Raymond Domenech et Rennes, 1-1 pour le PSG à Saint-Etienne. Enfin, c'est un sujet dont on parle peu au cinéma, la mort d'un enfant à la naissance. Parce qu'il a lui-même été confronté à cette douleur abyssale, le réalisateur hongrois Cornel Mondruso signe un film d'une intensité et d'une émotion rare, Pieces of a Woman, récompensé d'un prix d'interprétation féminine à la Mostra de Venise. Corinne Pellissier.
Rarement les thèmes du traumatisme et de la perte d'un enfant auront été abordés de manière aussi frontale au cinéma, à part peut-être chez Lars von Trier avec son film Antéchrist qui avait valu à Charlotte Gainsbourg un prix d'interprétation au Festival de Cannes 10 ans plus tard. Et pour son premier grand rôle au cinéma, c'est la comédienne Vanessa Kirby, révélée par la série The Crown, qui lui emboîte le pas, criante de douleur et de réalisme dans ce film qui bouscule, avec une scène d'introduction à couper le souffle, filmée d'une traite sur 25 minutes, l'excitation de l'accouchement, la joie, la peur, la perte, la douleur. Impossible de rester de marbre face à la tragédie que devra affronter le personnage de Martha et son compagnon joué par Shia LaBeouf. Les différentes étapes du deuil, le travail de reconstruction, chacun des personnages aura ici sa manière d'essayer de dépasser le drame, le désarroi, la colère et même la recherche d'un responsable, le tout filmé à la manière d'instantané sur plusieurs mois. Pieces of a Woman est l'un des grands chocs cinéma de ce début d'année par un réalisateur qui connaît bien son sujet. L'histoire est inspirée de l'expérience personnelle de Cornel Mondruso avec sa compagne, la scénariste Kata Weber. Il y a 2 ans, ils en avaient tiré une pièce de théâtre. Aujourd'hui, c'est Martin Scorsese qui produit leur film.
Et comme les cinémas sont toujours fermés, le film sort aujourd'hui sur Netflix. Article à lire également sur franceinter.fr.
Merci Agnès Soubiran.